Salut à vous tous, mesdames et messieurs, à l'écoute de Radio Scolaire Ndragakura. Salut, chers enseignants. Bienvenue à l'émission Espace Pilote. Nous poursuivons la série des émissions IFADEM, Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Ces émissions qui nous ont conduits à l'intérieur du pays, particulièrement dans les écoles des provinces concernées par le projet IFADEM. L'émission d'aujourd'hui constitue la partie théorique de l'émission que vous avez suivie la semaine écoulée. Et si vous vous en souvenez, c'était à l'école primaire de Rutshazo, en province Mwaro. L'émission d'aujourd'hui sera animée par Ildefonso Ngarigari, conseiller au BPEB ex-BER et animateur de l'atelier de français. Monsieur Ildefonso, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs.
Et si vous pourriez donc nous rappeler le sujet de l'émission d'aujourd'hui et l'objet des visites effectuées.
Merci beaucoup. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, nous avons effectué des visites de classe dans certaines écoles de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, nous voudrions vous entretenir sur les erreurs liées aux liaisons et aux enchaînements.
Encore une fois, merci de votre disponibilité. À la présentation de l'émission, vous êtes avec Anne-Marie Kugayo. Encore une fois, bienvenue. Le sujet concerne les liaisons et les enchaînements. Monsieur Ildefonso, est-ce que vous pourriez nous parler de l'objectif de cette émission?
L'objectif de cette émission, c'est d'essayer de voir comment aider les enseignants à corriger les erreurs liées aux liaisons et aux enchaînements. Et pour arriver à confectionner cette émission, nous avons visité quelques écoles de la province scolaire de Mwaro. C'est une des provinces qui est concernée par le projet IFADEM et nous voudrions donc aider tous les enseignants à pouvoir se corriger ou corriger leurs élèves au niveau des liaisons et enchaînements.
Avec le projet IFADEM, si je me rappelle bien, l'attention a été particulièrement portée sur les classes de 5e. Ce sont les enseignants de ces classes qui ont été formés et ce sont ces mêmes classes que nous avons visitées quand nous avons effectué ces descentes. Quel a été votre constat?
Je voudrais d'abord dire que pour pouvoir arriver à cette émission, nous avons assisté à des leçons de français et notre attention était attirée au niveau des textes de lecture par la liaison et les enchaînements. Et heureusement, en assistant aux leçons d'enseignement de texte, nous avons constaté que les élèves, en général, savent lire le texte en respectant ces liaisons et ces enchaînements. C'est parce que les enseignants eux-mêmes sont sensibles à ce genre d'erreurs qui sont souvent commises, notamment en ce qui concerne les élèves qui ne savent pas encore très bien lire. Nous avons constaté aussi que, suite au réaménagement, qui est dans le programme de français ces années-ci, les élèves de 5e suivent actuellement le programme de 4e pour terminer la matière de 4e non vue l'année passée. Et notre constat est que les indications correctives ne se retrouvent pas dans les fichiers du maître de 4e. Je dois rappeler qu'une leçon sur le texte en 4e s'enseigne sur 3 périodes. Ce que nous faisons, nous suggérons qu'à la dernière période, l'enseignant puisse cibler les difficultés de lecture rencontrées par ses élèves au courant des 2 précédentes période. Il peut dans ce cas travailler sur une ou des difficultés liées à la lecture et aussi nous essayons de suggérer qu'au préalable, l'enseignant ait rédigé un objectif correctement. Nous constatons que la rédaction de l'objectif généralement se fait comme suit. À la fin de la leçon, l'élève doit être capable de lire le texte en respectant les règles de lecture. Vous comprenez que cet objectif est vague et ne peut pas être atteint dans une seule leçon. S'il s'agit de traiter, par exemple, les liaisons et les enchaînements, l'objectif devrait être formulé comme suit. À la fin de la leçon, l'élève doit être capable de lire le texte en marquant correctement les liaisons et les enchaînements. Cet objectif est beaucoup plus précis. Voilà donc ce que nous avons pu constater. Mais, en général, le constat est que, dans leur lecture, les élèves respectent les liaisons et les enchaînements et aussi les enseignants corrigent au fur et à mesure. Seulement, on remarque que plusieurs corrections font que la lecture ne soit pas tout à fait courante. On voit qu'il y a chaque fois des ruptures et ça fait que la lecture n'est pas une lecture compréhensive, mais une lecture annonnée. Ce problème peut être résolu par des lectures que le maître peut laisser faire par les élèves, mais faire une correction collective avec un texte support.
Satisfaction donc d'une façon générale, mais il y a quand même des erreurs qui restent à corriger. Et vous avez parlé notamment de la lecture qui reste annonée. Comme on dit, il n'y a pas d'effet sans cause. Quelle serait justement la cause de ces lacunes que vous avez constatées, ces lacunes qui restent à corriger?
La première lacune est liée au fait que, comme vous le savez, le français c'est une langue étrangère. Et puis, dès la deuxième, c'est là où on commence à faire la lecture, troisième, quatrième, la lecture n'est pas encore une lecture courante. On essaie de renforcer en cinquième année. Le grand problème, c'est que probablement, les enseignants de deuxième, troisième et quatrième n'ont pas amené les élèves à pratiquer une lecture courante. Et ça retombe sur l'enseignement de la lecture en cinquième année. Le deuxième problème, c'est justement un problème qui serait lié à certains enseignants qui eux-mêmes ne sont pas très attirés par la lecture ou alors n'ont pas reçu des techniques suffisantes pour enseigner la lecture. Donc, c'est l'objet de cette émission pour amener les enseignants eux-mêmes à comprendre comment faire une lecture courante. Dans cette lecture courante, évidemment, il y a ces corrections concernant les liaisons et les enchaînements.
Comme concepteur des programmes, vous faites aussi le suivi. Est-ce que vous auriez peut-être une proposition pour effectivement motiver pas seulement les élèves, mais aussi les enseignants à la lecture?
Pour pouvoir enseigner une lecture, il faut que, en ce qui vous concerne, vous en tant qu'enseignant, vous puissiez être conscient et être outillé pour pouvoir enseigner cette lecture. Autrement dit, il faut que vous sachiez vous-même faire une lecture courante pour pouvoir enseigner une lecture courante. S'il y a des enseignants qui accusent des lacunes à ce niveau, je ferai un conseil comme quoi il faut essayer de trouver du matériel de lecture, que ce soit des journaux, que ce soit des livrets de lecture, que ce soit des romans. Dans tous les cas, la lecture, c'est quelque chose de continuel. Si on ne la pratique pas à un certain moment, les notions de lecture peuvent disparaître. Il faut donc essayer de trouver des outils qui vous aident à garder votre lecture courante. Dans tous les cas...
Excusez si je suis un peu à côté. Je ne sais pas si vous avez vérifié si toutes les écoles sont au courant de ce réaménagement. Des fois, on constate qu'il y a des écoles qui disent qu'ils n'ont même pas été au courant du réaménagement. Je ne sais pas si vous avez vérifié dans les écoles des provinces concernées par le projet IFADEM et d'autres qui ne sont pas concernées, si tous les enseignants ont été informés de ce réaménagement et s'ils avancent au même rythme.
Je profite de cette occasion, justement, pour remettre les aiguilles à l'heure, parce que effectivement, nous avons entendu ici et là des gens qui téléphonaient disant que le programme de français aurait changé et surtout le programme de sixième. J'aimerais dire que rien n'a changé et je rappelle que surtout pour le programme de sixième qui est concerné par le concours national, ils vont voir le gros du programme de cinquième, c'est-à-dire partir de l'unité 3, aller jusqu'à l'unité 10 de la cinquième année, et puis faire deux unités ou trois, s'ils ont eu le temps, de la sixième année. Et c'est sur ce programme que va porter le concours national. Et si je reviens au programme de cinquième, chaque enseignant devra d'abord terminer le programme de quatrième qui n'aura pas été vu, et puis entamer le programme de cinquième. C'est après qu'on va vérifier là où tout le monde sera arrivé pour pouvoir proposer un programme de sixième. Je pense que c'est clair. Il en est de même des programmes de troisième, deuxième, première. Pour garder une progression homogène, il faut que on puisse terminer d'abord le programme qui n'a pas été vu afin que l'élève, à la fin de la sixième année, puisse avoir un tout. Il ne faudrait pas qu'il y ait des trous parce que la progression tient compte toujours de ce qui a été vu les années antérieures.
Excusez donc, chers auditeurs, cette parenthèse, mais je crois que c'était aussi nécessaire pour répondre aux inquiétudes des uns et des autres. Mais pour revenir au sujet qui était le nôtre concernant les liaisons et enchaînements, et nous nous adressons particulièrement aux enseignants de 5e, mais je crois aussi que ça concerne d'autres classes. La lecture, ça se fait dans toutes les classes à partir, je crois, de la 3e. C'est donc dire que liaisons et enchaînements se retrouvent aussi dans ces classes-là. Monsieur Ildefonse, quand peut-on parler de liaison?
Je voudrais d'abord, avant de parler des liaisons, faire un petit rappel, comme quoi, pour travailler sur les liaisons et les enchaînements, il faut que le maître ait un support, et ce support texte, il doit le mettre au tableau. Ce support texte ne doit pas être long, ça peut être un petit texte ou un paragraphe, et le choix de ce paragraphe dépendra de la longueur du texte à enseigner, et surtout des éléments à enseigner contenus dans ce paragraphe. Aujourd'hui, notamment, ce texte doit contenir des éléments de liaison et d'enchaînement. Alors, pour arriver à la question que vous venez de me poser, on parle de liaison lorsqu'une consonne écrite non prononcée se lie à la voyelle initiale du mot suivant pour former une nouvelle syllabe. Je donne un exemple. Un grand arbre, le D de grand qui n'est pas prononcé, va se lier avec le A de arbre et on va sentir qu'il y a prononciation d'une consonne qui au départ n'était pas prononcée. Puisqu'il y a liaison avec la voyelle du mot suivant, cette consonne va apparaître dans cette liaison. Je peux donner un exemple, un autre exemple, les enfants. Quand je dis les, on ne sentirait pas, du moins au niveau de la prononciation, qu'il y a un S à la fin. Sinon, on va sentir que le S existe bel et bien sur le les. Quand il y a liaison, les enfants, le S va se lier avec E de enfant pour former ZAN, enfant. Donc, la liaison, je le rappelle, c'est lorsqu'il y a une consonne écrite non prononcée, se lie à la voyelle initiale du mot suivant pour former une nouvelle syllabe.
Est-ce que vous conseillez, par exemple, aux enseignants, quand ils corrigent de telles erreurs, de faire la transcription phonétique?
Non, pas nécessairement la transcription phonétique, qui relève de la haute phonétique, je dirais, de la science de la phonétique.
Alors, comment faut-il procéder pour la correction?
La correction est faite au niveau de la prononciation. Mais aussi, quand on met au tableau cette phrase ou ces mots, où il y a des liaisons, on va mettre en dessous un petit signe qui montre qu'il y a effectivement liaison, une petite ligne qui va de la dernière consonne du mot qui va se lier à la première voyelle du mot suivant. C'est comme ça qu'on va le faire. Sinon, la transcription phonétique, des fois, ça peut avoir des complications pour les enfants de 5e, 6e année.
Peut-on dire que quand il y a consonne qui termine le mot et qu'il y a voyelle qui commence le mot suivant, que chaque fois il y aura liaison?
C'est une très bonne question. C'est pas toujours qu'il y a liaison. Il y a ce qu'on appelle les liaisons obligatoires. Quand il y a une consonne à la fin d'un mot et qu'il y a une voyelle au début du mot suivant, la liaison doit avoir lieu. C'est ce qu'on appelle les liaisons obligatoire. Et cela, on le constate, ça se retrouve généralement entre un nom et son déterminant. Et quand on dit des étoiles, le S de D se lie avec E de étoile et on sent l'apparition de la syllabe Z. De bons amis. Là aussi, on sent que le S va se lier à A et on va avoir la syllabe ZA. Et ça se retrouve aussi devant un H muet initial. Exemple, de bons habits, un vieil homme, de belles histoires, des herbes. Ça, c'est obligatoire parce que, et surtout, on voit que, on sent que, au niveau de la prononciation, quand on n'a pas mis ces liaisons, d'aucun sentira qu'il y a une erreur automatiquement. Il y a aussi une liaison obligatoire entre un verbe et son pronom sujet. Quand on dit, vous avez du retard. Entre vous et avez, il y a apparition d'une syllabe za. Vous avez du retard, liaison qui est liée à la présence de la consonne s et de la voyelle a. Ou bien ils écrivent de belles histoires. Là aussi, la liaison est obligatoire. Parce qu'on ne peut pas dire « ils écrivent de belles histoires ». On sentirait qu'il y a quelque part une erreur ou alors manque de maturité au niveau de la lecture. Dans des expressions figées aussi, il y a souvent des liaisons obligatoires comme « à tout à l'heure » ou bien « tout à coup » ou bien « tout à fait » ou bien « sous-entendu ». Dans ces expressions figées, la liaison est également obligatoire. On peut avoir aussi des liaisons obligatoires avec des conjonctions, des prépositions ou des adverbes monosyllabiques comme dans « en attente » ou bien « en attendant » ou bien « quant à eux » ou bien « quand il reviendra » ou bien « très élevé ». Dans ces expressions ou dans ces conjonctions, avec ces prépositions ou ces adverbes monosyllabiques, la liaison est obligatoire. La liaison est également obligatoire avec le verbe auxiliaire « être ». Quand nous disons « il est en congé », il serait incorrect de dire « il est en congé ». Même si il y en a qui le disent, on sent très bien que cette liaison était nécessaire et plus que nécessaire d'ailleurs, obligatoire.
Et vous dites donc qu'il y a des liaisons obligatoires, vous avez bien expliqué les différents cas. Et quand est-ce que le lecteur saura qu'il ne faut pas faire la liaison?
Il y a de ces liaisons qui sont dites interdites et à la frontière de deux groupes rythmiques et syntaxiques importants. Nous avons par exemple, entre un groupe nominal et un groupe verbal, la liaison est interdite. Je donne un exemple. Quand nous disons « les élèves attendent devant la classe », « les élèves attendent devant la classe ». À la fin du mot « élève », il y a un « s ». Et le mot qui suit, c'est « attendre ». Il y a un « a ». Le « s » et le « a », d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, devraient faire une liaison et faire ressortir une syllabe « za ». On ne peut pas dire « les élèves attendent ». Entre un groupe nominal et un groupe verbal, on ne met pas de liaison. Entre un nom et un adjectif postposé aussi, on ne met pas de liaison. Je donne un exemple. Un étudiant intelligent ou bien un enfant américain. Donc, nous disons qu'à ce moment, la liaison est interdite. La liaison est également interdite devant un H aspiré. Je ne peux pas dire « ce sont des zéros ». Au risque même de confondre avec les zéros. Non, ce sont des héros. Un héros national. Ce n'est pas un héros national. C'est un héros national. Devant un H aspiré, on ne va pas faire de liaison. Même chose, ce sont des huttes. On ne dira pas ce sont des huttes. Ou bien, ce sont des handicapés. Alors que c'est fréquent. Et c'est l'objet de cette émission. C'est pour essayer de corriger ou bien de donner des éléments qui peuvent aider les enseignants à corriger les élèves et surtout qu'ils ne commettent pas eux-mêmes ces erreurs liées aux liaisons. On ne peut pas dire des zéros, on ne peut pas dire des huttes, on ne peut pas dire des handicapés ou bien des hurlements. Devant un H aspiré, il n'y a pas de liaison, donc ce sont des liaisons interdites. On dira ce sont des héros, ce sont des huttes, ce sont des handicapés, ce sont des hurlements. Il y a aussi des cas où la liaison est interdite, c'est après le pronom personnel dans une inversion. Ont-ils averti leurs parents? On ne pourra pas dire « ont-ils averti leurs parents ?» Cette faute est fréquemment commise, mais ce n'est pas une bonne lecture. On dira « ont-ils averti leurs parents ?» La liaison est aussi interdite après les noms propres comme « Louis élève la voix ». Je ne pourrais pas dire « Louise élève la voix ». Parce que la dernière lettre de Louis, c'est S, et puis il y a la première lettre du mot suivant qui est une voyelle, et je ne dirais pas Louise élève la voix. Non, c'est Louis élève la voix. La liaison est également interdite dans ce cas suivant, après l'adverbe interrogatif combien. Je ne peux pas dire combien en voulez-vous? Non, je dirais combien en voulez-vous? Même si il y a une consonne à la fin du premier mot combien, le N, et présence d'une voyelle sur le mot suivant, E, dans un. on dira combien en voulez-vous. Donc, après l'adverbe interrogatif combien, on ne mettra pas de liaison. Dans certaines expressions figées aussi comme né à né, mort ou vif, même s'il y a terminaison d'une consonne et présence d'une voyelle au mot suivant, on ne peut pas dire par exemple né à né ou mort ou vif. Non, on dira né à né ou mort ou vif, etc. Et aussi, avec les conjonctions et, et, et ou, ou, on ne mettra pas de liaison. Exemple, vous voulez du vin ou du lait? Je ne peux pas dire, vous voulez du vin ou du lait? Ce serait fantaisiste et un peu mal placé. Je ne peux pas dire non plus, cet enfant est bon et sage. Non, je dirais, cet enfant est bon et sage. Alors, dans tous ces cas, il faut essayer de bien voir pour que la lecture soit plus ou moins correcte. Quand il y a des liaisons interdites, il ne faudra pas mettre de liaison, même si j'ai dit que la liaison, c'est lorsque une consonne écrite non prononcée se lie à la voyelle initiale du mot suivant pour former une nouvelle syllabe. Vous aurez compris que ce n'est pas dans tous les cas. Il y a de ces cas où les liaisons ne sont pas nécessaires ou même sont interdites, et là où les liaisons sont obligatoires pour que la lecture soit correcte et audible et bien acceptée par l'oreille.
Et on dirait donc que ce sont des règles qui sont toutes faites. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas des cas où l'on peut se le permettre? Est-ce que c'est strictement interdit? Il n'y a pas de cas où l'on peut être libre de faire ou de ne pas faire la liaison?
Oui, il y a des cas où on peut faire des liaisons. Et ça ne peut pas faire du tort, que ça soit au locuteur ou à l'auditeur. On peut faire des liaisons ou ne pas les faire dans certains cas. Ce sont des cas qu'on appelle des liaisons facultatives. Ces liaisons facultatives dépendent généralement du niveau de langue et de la situation de communication. Surtout en situation familière ou informelle, on supprime certaines liaisons qui, en discours officiel, sont indispensables. Je donne un exemple. Je peux dire « je vais écrire cette lettre » ou bien je peux dire aussi « je vais écrire ». Là, que l'on dise « je vais écrire » ou « je vais écrire », ça ne va pas faire du tort à l'auditeur. Mais, je répète, c'est suivant la situation où l'on se trouve. En situation familière, on peut se permettre certaines choses, évidemment. On peut faire des liaisons là où il n'en fallait pas, ou ne pas mettre des liaisons là où il en fallait. Des fois, l'interlocuteur comprend aisément. Mais il y a de ces cas, comme je vous l'ai dit, où les liaisons sont obligatoires, que ça soit en situation familière ou informelle ou en situation de discours officiel, là, on sera obligatoirement obligé de mettre ces liaisons. Et il y a aussi de ces cas où la liaison est interdite, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là aussi, que ce soit en situation familière ou en situation de discours officiel, on sentira que les liaisons sont interdites.
Merci beaucoup. Je crois que les auditeurs ont apprécié aussi les explications que vous avez données. Sauf que peut-être il y en a qui ne sont pas très forts en matière de grammaire, parce que il s'agit des règles. Des fois, on parle français sans même distinguer que l'on utilise un groupe nominal ou un verbe. Je crois que c'est ce dont vous avez parlé, c'est qu'il faut créer cette habitude de parler français, de bien parler français, de bien lire le français. Et c'était donc à propos des liaisons. S'il n'y a peut-être pas d'autres explications à apporter, parlons des enchaînements. Quand parle-t-on d'enchaînement?
Merci. Tout à l'heure, je disais qu'on parlait de liaison lorsque une consonne écrite non prononcée se lie à la voyelle initiale du mot suivant pour former une nouvelle syllabe. On parlera d'enchaînement. Quand la consonne finale d'un mot est prononcée et peut se lier avec la voyelle du mot qui suit avec formation d'une nouvelle syllabe. C'est dans ce cas on parle d'enchaînement consonantique. Je donne un exemple. Il habite à Muramvya. Dans il, la dernière lettre c'est L qui est prononcée. On sent à l'oreille que il, le L est prononcé. Et puis, la lettre qui suit, c'est aussi une consonne, mais il s'agit d'un H aspiré. Il habite à Muramvya. Le L va se lier directement avec la première voyelle du mot suivant et on va avoir « il habite à Moravia ». C'est un enchaînement parce que au niveau de la voix ne s'arrête pas entre les deux mots.
Est-ce que vous pourriez nous parler d'un autre cas où l'on peut trouver l'enchaînement?
Oui, on peut trouver un enchaînement lorsque deux voyelles qui se suivent forment une seule syllabe et on parle dans ce cas d'enchaînement vocalique. Je donne un exemple. « Tu as un vélo ». Des fois, dans « tu as un vélo », on sentira une seule voyelle alors qu'il y en a deux. « Tu as », mais dans une prononciation courante, on dira « tu as un vélo ». On peut sentir que les deux forment, donc on enchaîne rapidement pour former presque une seule consonne, pardon, une seule syllabe au lieu de deux. Je peux donner un exemple. « J'ai une amie ». Dans « j'ai une amie », dans « une », il y a E à la fin, ami, il y a un A qui commence. Là, avec les deux voyelles, il y en aura une qui va sauter. C'est notamment la première qui va sauter et on va avoir une amie. Au lieu de une amie, on va avoir une amie. Et surtout, on n'aura pas une amie. Non, c'est la deuxième voyelle qui va prendre le dessus et on aura une amie. On ne verra jamais l'inverse. Dans ces cas de liaison et dans ces cas d'enchaînement, c'est toujours la syllabe du deuxième mot qui va être prononcée.
Merci. Je crois que on ne pourrait pas ajouter davantage. Si on commettait des erreurs de liaison ou d'enchaînement, je crois que les explications ont pu être fournies. Nous nous acheminons vers la fin de l'émission. Avant de clôturer, peut-être auriez-vous un message à formuler à l'endroit de nos auditeurs, particulièrement aux enseignants qui ont suivi cette émission. Je ne sais pas si on peut particulariser les enseignants.